Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Accueillons sans plus tarder Stéphane Ouette. Bonsoir Stéphane.
Salut mon Mario, bien content de te reparler après des belles vacances.
Ben merci Stéphane, moi aussi je suis content de retrouver toute l'équipe et de te retrouver également. On va parler tantôt un petit peu de Détroit Islanders, c'est un match où il n'y a vraiment pas, en tout cas il n'y a pas une grosse marge de manœuvre pour les Islanders, mais d'abord un petit regard sur les Canucks de Vancouver. C'est venu comme une surprise pour plusieurs qu'ils reviennent au sommet cette année. Clairement, il y a eu un effet Tocket. Martin parlait de l'environnement de qualité autour des joueurs, mais il y a des joueurs de qualité et très certainement, je parlais de la 7e sélection 2018, Quinn Hughes. Est-ce que c'est ton candidat au trophée Norris, mais c'est sûr que s'il n'est pas là, les Canucks ne sont pas dans la même position. 79 points en 69 matchs.
Ben écoute, le débat est déjà lancé. Qui devrait gagner le fameux Norris? Et les candidats, ben, il y en a des bons cette année. On parle de Quinn Hughes, Cal McCart, bien entendu, Roman Yossi, qui est tout le temps là, année après année, Victor Hedman, qui est là, et un nouveau cette année dans la lutte, Evan Bouchard,
avec les Oilers.
Edmonton, que toute une saison. Mais mon choix, moi, aucun doute en ce moment, ici, puis il va falloir qu'il y ait une fin de saison désastreuse pour que ça change mon idée. C'est Quinn Hughes. C'est facile à dire que Quinn Hughes est le premier au niveau des points chez les défenseurs, mais c'est pas, pour moi, c'est pas mon critère. Mon critère, là, ce que je retiens de plus, là, c'est plus 37. Plus 37, ça, c'est de loin le meilleur défenseur de la Ligue nationale au niveau des plus et des moins. Et pour moi, un défenseur doit premièrement défendre. Et c'est l'aspect du jeu de Quinn Hughes qui a le plus amélioré cette saison. J'ai vu des matchs en fin de soirée jouer Quinn Hughes défendre comme il n'a jamais défendu depuis sa venue dans la Ligue nationale. Et c'est ça qui m'impressionne le plus. Donc, pour moi, Quinn Hughes a plus 37. T'as Cale Makar, qui n'a pas autant de points que Hughes, mais qui est juste
pas
plus
très loin.
13. Oui, mais il est juste plus 13. Pour moi, c'est une grosse différence. Plus 13, plus 37, Quinn Hughes. Donc, moi, c'est ça qui m'impressionne de Quinn Hughes cette année, la façon qu'il défend. Et pour moi, mais le Norris, jusqu'à preuve du contraire, c'est Quinn Hughes.
Oui, et Hughes qui est donc peut-être efficace défensivement, une grande, grande mobilité, parce que c'est pas un gros gabarit. Tu sais, on n'arrête pas de parler de Lane Hudson qui éventuellement va se pointer à Montréal, puis on fait des comparaisons. Là, la barre est haute. Là, si jamais il devient un gars du calibre de Hughes ou des autres de cet acabit, on le compare souvent à Dumfries, mais Hughes est un gars de 5 et 10, 180 livres. Alors, on verra bien. Encore plusieurs matchs qui pourraient permettre de faire la différence à ceux qui veulent le rattraper dans cette course. Bon, on parle des défenseurs, mais je veux te parler aussi du jeu défensif, des tirs bloqués. C'est un tir bloqué qui coûte la fin de saison de Joshua Roy. À chaque année, la rondelle est probablement l'élément qui fait le plus de dommages dans la game en général, hein? Plus que les mises en échec, je pense. Il y a tellement de blessures qui sont causées par les rondelles. Stéphane, c'est pas la première fois qu'on parle de ça, mais t'es pas un fan des tirs bloqués. Et est-ce que c'est... T'sais, on parle de culture, de devenir un héros, de bloquer un lancer avec tes dents pour bien paraître dans la chambre. Puis je comprends la culture, puis je comprends qu'il y a de quoi d'inspirant là-dedans. Mais est-ce que c'est la seule façon, est-ce que c'est une condition essentielle à la victoire?
Ben moi, écoute, tu viens de le dire, Mario, je suis pas un grand fan des tirs bloqués parce que j'ai tout le temps trouvé que c'est une statistique qui est surévaluée. Et pour moi, oui, ça paraît bien. On parle souvent de David Savard. Hey, David Savard, es-tu courageux? Oui, c'est vrai qu'il est courageux, il serait face à des lancers. Mais ça paraît bien de dire, hey, il a pris 6 lancers ce soir, il s'est sacrifié. Les défenseurs du Canadien, les attaquants se sacrifient. Oui, c'est vrai que ça paraît bien dans une discussion. Mais pour moi, l'efficacité, elle est pas, j'y crois pas. Et je vais te dire pourquoi. Moi, j'étais longtemps avec les Blackhawks, 10 ans. dont 7 ans avec Joel Quenneville. Joel Quenneville, qui est pour moi un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Ligue nationale, n'a jamais cru à ça. Et pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'on obstrue plus souvent qu'autrement la vue de ton propre gardien de but. Parce que oui, on parle du lancer bloqué, mais on ne parle pas des lancers qui ont été essayés de bloquer. Et ceux qu'on voulait bloquer, qu'on n'a pas bloqué, mais souvent se retrouvent dans le filet parce que tu bloques la vue de ton propre gardien de but. Donc, à la fin de l'année, combien de tirs, combien de buts que tu as évité parce que tu as bloqué tes tirs et combien de buts que tu as donné parce que tu as tenté de bloquer un tir, mais que tu as bloqué la vue de ton gardien de but plus qu'autre chose. Ça, c'est une statistique que j'aimerais voir et je suis convaincu qu'au bout de l'année, tu n'es pas gagnant. Autre chose, c'est que quand tu bloques des tirs, tu risques beaucoup de blessures pour rien. La plupart de ces lancers bloqués-là, c'est des lancers que ton gardien de but arrêterait quand même. Et on a vu encore un bel exemple il y a deux soirs, un Joshua Roy qui met fin à sa saison en cause d'un tir bloqué. J'ai vu ça, moi, sur Gallagher, se blesser aux mains à cause des tirs bloqués. J'ai vu ça sur Savard cette année, manquer 8 matchs pour un lancer bloqué. Et ça, c'est tous ceux qu'on ne sait pas et tous ceux qui jouent à 80 % de capacité parce qu'ils ont mal à une cheville, ils ont mal à un genou, ils ont mal partout à cause des fameux tirs bloqués. Donc, pour moi, c'est une statistique que tout a été surévaluée.
Surévaluée, mais est-ce que tu penses que le hockey a changé depuis les années de Joel Quenneville avec les Hawks? Est-ce que tu penses que c'est devenu non. plus nécessaire aujourd'hui? Parce que on voit, puis c'est peut-être sûrement déjà arrivé à Carey aussi ou à d'autres gardiens, d'aller donner une tape à un joueur qui avait bloqué un lancer parce qu'il était oui. cuit à ce moment-là.
Oui, parce que ça fait partie de la culture d'équipe de dire « Hey, nous autres, on est des vrais, on s'aide, puis on se sacrifie. » Mais j'ai vu des gardiens de but tout qui détestaient que la plupart des défenseurs le bloquaient la vue en tentant de bloquer des tirs et puis qui n'ont jamais vu un but qu'ils ont accordé parce que le défenseur était devant eux. Donc, j'ai vu beaucoup, et celui qui me revient surtout à l'idée, c'est Nikolaj Abibulin, un des bons gardiens de but que j'ai entraîné dans la Ligue nationale, qui détestait ça, voir un des joueurs devant lui. Il détestait ça. Il disait, ôtez-vous de là, je vais l'arrêter. Et puis, autre chose, c'est-tu gage de succès? Mais moi, là, les équipes qui bloquent le plus de tirs dans la Ligue nationale en ce moment, là, dans les 5 premiers, là, t'as les Flyers. Les Flyers, là, c'est du Tortorella tout craché. Oui. Lui, là, ses équipes sont tout le temps démarquées par bloquer des tirs. Et ça donne drôle parce qu'un de ses élèves à Tortorella, c'est un certain Martin Saint-Louis qui exige la même chose que Tortorella. Autre chose, la troisième équipe qui bloque le plus de lancers, c'est les Sharks de San Jose.
Ils n'ont pas souvent rondelle.
La Ligue nationale. Exact. Et la quatrième, la quatrième équipe qui donne le plus de lancers dans la Ligue nationale, c'est les Islanders. Encore là, souvent quand tu dis hey, on bloque des lancers, ça veut dire une affaire. C'est que tu donnes beaucoup de lancers. Donc, ça, c'est pas un compliment. Et les équipes qui bloquent le moins de lancers, Mario, le moins de lancers dans la Ligue nationale, numéro 1, les Hurricanes. Numéro 2, la Floride. Numéro 3, Edmonton. Numéro 4, New Jersey. Numéro 5, Canucks. 4 des 5 équipes qui bloquent le moins de lancers sont dans les meilleures équipes de la Ligue nationale.
Dirais-tu que parce que ça ne fait pas partie de leur culture ou c'est parce que ce sont bon, les bonnes équipes ont la rondelle, sont souvent plus souvent en attaque qu'en défensive? Est-ce que quand même, je trouve ça intéressant vraiment l'analyse avec les stats et des équipes qui dominent ou qui accordent le plus de lancers. Ça ne veut pas dire toutefois, puis je pense pas que tu vas être en désaccord avec ça, Stéphane, que un joueur d'une de ces équipes dominantes-là, quand tu arrives dans une série 4-7, dans une situation cruciale, peut-être que là, ça va devenir une consigne. Quand tu affrontes un adversaire d'égal à égal, là, tu sais, là, peut-être que tu es obligé de recourir à ces méthodes-là. Est-ce que c'est une explication que Toronto et Edmonton n'ont pas eu de succès pendant des années parce que des choses qu'ils n'osaient pas faire?
Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Il y a tout le temps des lancers que tu veux bloquer, des lancers en angle, sur des passes latérales. quand on parle latéral, là, en anglais, on dit side to side, où le gardien de but n'a pas le temps de bien se positionner. Ça, c'est des lancers que tu veux bloquer. Mais les lancers où que le gardien de but, tu sais qu'il est déjà bien positionné, ôte-toi de là. Il va l'arrêter. Donc, c'est deux choses différentes. Mais nous, avec le Canadien, ou avec les Sharks, ou avec les Flyers, on est tellement concentré à seulement bloc, que souvent, on se sort hors position.
Ça, c'est vrai.
Et jouer à tous les matchs. Et autre chose, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe alentour de nous. Pourquoi? Parce qu'on focus seulement sur la rondelle à vouloir bloquer les lancers. On n'a aucune idée qui rentre par en arrière, qui s'en va au filet, qui se faufile entre le gardien de but et le défenseur. Parce qu'on focus seulement sur une chose, sur la rondelle, dans le but de bloquer des lancers. C'est là que j'ai de la misère avec cette fameuse culture-là absolument de bloquer des lancers.
Analyse très intéressante. Tu as fait allusion aux Flyers. Oui, vas-y, Stéphane.
Et pour finir avec les lancers bloqués, je me souviens, Joël, pour revenir avec mes amis que les Blackhawks, Joël Canville détestait ça dans le sens qu'on bloquait la vie de notre gardien de but. Et surtout, il avait tellement peur que nos meilleurs joueurs se blessent sur des lancers bloqués quand il savait que la plupart du temps, notre gardien de but va l'arrêter.
Ben, belle conclusion qui était nécessaire à ce propos et qui amène un regard différent sur cette fameuse culture des tirs bloqués qui est tellement vantée. On t'a fait allusion à Torts, c'est la culture des Flyers de Philadelphie. Et la culture Torts, c'est de laisser hors de l'alignement son capitaine pour un deuxième match de suite. Et encore une fois, ce soir, avant le match, j'en parle pas de Sean. Moi, je sais pas c'est quoi qui motive cette décision, mais de pas en parler, c'est sûr que t'amènes le monde à spéculer, à savoir c'est quoi le problème. Fait que veux pas, c'est une balloune à me mener. Donc, c'est un abcès qu'il va falloir qu'il crève un jour ou l'autre. Il a beau avoir son petit sourire de fin finaux parce qu'il a gagné son dernier match. Je ne sais pas comment ça va finir. Ceci dit, je ne suis pas couturier de tout blâme. Un coach ne prend pas une décision comme ça à la légère.
Exactement, exactement. Il y a une raison. C'est sûr qu'il y a une raison. Torch ne fait pas ça pour, en bon vieux français, écœurer son joueur, surtout son capitaine, qui vient de nommer il y a moins d'un mois. Il ne fait, fait pas ça pour le fun. Il y a une raison derrière ça. Mais il y a une raison qu'on ne sait pas. Et il y a des raisons, des fois, qu'on n'a pas besoin de savoir. Puis j'aime Torch là-dessus. Torch, il dit, écoute, c'est quelque chose entre moi et Sean. Sean, il sait pourquoi. Et puis ça va rester entre moi et Sean. Et ça, j'ai pas de trouble avec ça parce qu'il y a des affaires qui doivent rester entre les joueurs puis le coach. Et puis, mais ça, c'est du grand Tortorella. Et il y a des joueurs qui le détestent et il y a beaucoup de joueurs qui l'adorent. Dans le sens que ça, là, en quelque part, ça fait partie de la nouvelle culture. Puis Dan Brière, il l'a dit l'année passée, quand il a gardé Torch, Tortorella, quand il dit, pourquoi qu'on a engagé Tortorella? C'est pour la culture, changer la culture. Et Tortorella, là, la culture, là, il vient de montrer là, que Cam Atkinson, t'as Mark Stahl, t'as Couturier, trois vétérans établis dans la Ligue nationale qui sont sortis hors de l'alignement par blessure, sont en santé. Mais ça lance un message à tous les jeunes que peu importe t'es qui dans cette équipe-là, peu importe t'es qui, si tu fais pas la job qu'on te demande, tu joueras pas. Et ça, c'est Tortorella, que vous l'aimez ou pas, ça, moi, je respecte ça.
Stéphane, en 5 secondes, combien de matchs pour Wilson qui aurait une audition en personne pour son coup de bâton dans le match d'hier? C'est incroyable la réaction. Je sais pas ce qu'il a pensé, une crampe au cerveau immédiate.
C'est une audition en personne. Ça va être minimum 5 matchs. Et puis, écoute, parce qu'il y a un historique. Tout le monde connaît tout son historique. Donc, il faut que ce soit au moins 5 matchs.
Stéphane, merci beaucoup. Bon match ce soir. Islanders, Détroit, pas de marge de manœuvre pour l'équipe de Patrick. Alors, du bon hockey
tout
surveillé.
Le match le plus important de l'année pour les Islanders.
Aucun doute. Jusqu'au suivant, s'ils le gagnent. Merci, Steph. Bye-bye.
OK, Mario.
OK. Dans un instant, autour de Daniel Sauvageau qui est avec nous, on va parler, bien sûr, de hockey, du match de ce soir, mais aussi de la vente des billets qui se sont écoulés comme des petits pains chauds pour le match Toronto-Montréal en avril prochain au Centre Bell dans la LPHF.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Canadiens Canucks sur nos ondes ce soir, mise en jeu peu après 22h, l'avant-match avec Martin Dagnan à compter de 21h30. Pas de changement dans la rencontre opposant les Islanders aux Red Wings. C'est 3-1 actuellement pour Détroit en début de troisième période. 3-2 Rangers sur les Bruins. Je ne fais que mentionner ces deux résultats-là là, où il y a quand même un certain intérêt par rapport surtout aux Red Wings-Islanders, la course aux séries. Sans plus tarder, allons retrouver notre ami André Tourigny. Bien le bonsoir, André.
Salut Mario, ça va bien?
Ben, ça va très très bien, content de te parler André. On parle des Canucks, nous ce soir, Quinn Hughes, est-ce que ça serait un de tes bons candidats ou ton candidat au trophée Norris? Je sais que les honneurs individuels des coachs, vous versez pas trop là-dedans, mais tu le situes où dans la hiérarchie des excellents défenseurs d'élite de la Ligue?
Il est bon. La différence avec McCarr, il est très bon défensivement. Il est dur à jouer, il est fort physiquement, etc. J'ai mes corps en avant, mais écoute, j'ai pas regardé les statistiques cette année vraiment là, individuelles.
Plus 37, là, Quinn. Plus 37, puis Kale est plus 13. Pour ce que ça dit, je sais pas si pour toi, les plus et les moins, c'est une stat qui te donne de l'info. Quand tu regardes ça à vol d'oiseau, André?
Ben, c'est une des infos. C'est pas l'info, mais c'est une des infos. Puis c'est sûr que, écoute, c'est... Good news, c'est un défenseur extraordinaire. Il n'y a pas de. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a aucun doute. Là. C'est dans l'élite de la Ligue, là, aucun doute.
Comment ça va, toi? Est-ce que la nouvelle. Là, est-ce que vous avez la confirmation que vous restez dans le même aréna aux Monettes l'an prochain? La réunion des DG, ça semble être la conclusion, André, hein?
Oui, mais de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Où tu veux, bonjour.
Non, mais tu sais, des fois, il y a des nouvelles de fin de dernière, de fin de saison. Je ne sais pas, là, mais non, il n'y a pas de scénario.
Non, nous autres, c'est pas rien que l'année prochaine. C'est pour. Le temps qu'ils bâtissent l'aréna, là, ça va prendre une couple d'années. Là, ça ne sera pas là, pendant un été. Là, fait que, écoute, c'est pas de nouvelles là-dessus.
Pas de nouvelles là-dessus. Est-ce que le propriétaire, Alex Muriello, là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, est près de l'équipe? C'est un gars que, tu sais, comme vous avez l'occasion de... Parce que je lisais de certains de ses propos, puis je trouvais ça intéressant. Ses sorties publiques ont été rares, mais tu sais, comme il disait que ça avait été difficile d'encaisser le refus de la région, tu sais, le référendum pour le projet qu'il avait soumis. Mais il dit, je peux pas demander à mes joueurs, à mon équipe... T'sais, il dit, autrement dit, il faut qu'on donne l'exemple. Nous, il faut qu'on se ressaisisse et qu'on fonce avec un autre projet. C'est ça qu'il demande à ses joueurs. Mais est-ce qu'il est près de l'équipe?
Non, il n'est pas près de l'équipe, mais son fils est près de l'équipe. Sa fille est près. Sa fille s'occupe de la business, si tu veux. Son gars s'occupe du branding, les réseaux sociaux, puis le hockey.
OK.
Sa fille et son gars là, sont prêts, mais pas M. Morello. Morello, il est... Alex, il est pas à l'entour de l'équipe, mais c'est un gars Billy, il parle après chaque game, ces choses-là. C'est un gars qui suit ça. C'est un gars qui a le bien de l'équipe à cœur. Il est présent dans ce sens-là, mais il est pas présent physiquement là, à tous les matchs ou quoi que ce soit.
André, comment va ton équipe? Comment tu trouves que ça va depuis que vous avez mis fin à votre fameuse série, là, puis que là, vous êtes revenu, disons, qu'un dossier d'environ 500 là, dans la dernière tranche d'à peu près 10 matchs? Aimes-tu le comportement de ton équipe? Puis comment tu es motivé à finir l'année de la meilleure façon possible?
Bien, on a eu encore des. On joue du meilleur hockey, on a eu des bonnes séquences. C'est sûr que jouer pour 500, on aimerait jouer en haut de ça. Là. On aimerait ça finir fort, mais en même temps, écoute. On a fait des transactions qui n'ont pas nécessairement... Dans un club comme le nôtre, on a donné des bons joueurs pour aller jouer dans d'autres équipes. Fait que, on ne s'attendait pas à être meilleur qu'avant la période des transactions. Puis, là, j'étais très d'accord avec les mots. J'aurais fait la même chose. Fait que, tout ça s'est fait ensemble. Mais c'est sûr que là, ça complique les choses. Quand on n'a pas notre... Même quand on joue un bon match, des fois, il nous manque juste un petit quelque chose là, pour pouvoir justement... En anglais, on dit get over the hump, là, juste pour aller chercher le gros but ou le gros jeu défensivement.
Quel élément du jeu te cause le plus de blessures dans ton équipe là, depuis que tu es dans la Ligue nationale? Si je te suggère que la rondelle fait le plus de blessés, est-ce que je me tromperais?
Non, tu ne te tromperais pas, mais je te dirais que c'est. Regarde, nous autres, on a Nick Bjugstad qui a eu une fracture, puis c'est pas un lancer. Ben, c'est un lancer bloqué. C'est. Il était pas dans la ligne. Le gars, il a voulu la mettre dans le fond, mais dans le fond, puis il a shooté direct sur la cheville, puis il y a une fracture. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement. Quand t'es square, quand t'es face au porteur de la rondelle, je sais pas qu'il y en a pas, là, mais il y en a moins que des rondelles, justement, quand t'es en avant du but, tu box out ou t'es offensivement en train de faire un screen. Là, c'est là, je dirais, qu'il y a le plus de blessures. Je le pense.
Et on parlait tout à l'heure avec Stéphane White qui ont réagi à la blessure de Joshua Roy là, qui s'est transformé en gardien de but pour bloquer un lancer. Bon, ce sont des gestes qui inspirent les coéquipiers, qui vont amener du respect de la chambre, de dire hey, le gars, il est prêt à faire autre chose que de flasher pour aider l'équipe. Puis Stéphane nous rappelait la philosophie de Joel Quenneville dans les grosses années des Blackhawks, qui lui, c'était pas un fan d'amener son équipe à bloquer des tirs, lorsque nécessaire sûrement, parce que l'affaire qu'il craignait le plus, c'est de perdre un bon joueur. Où est-ce que tu te situes par rapport à ça, le blocage de lancer qui coûte des joueurs, là, des fois, souvent?
Ouais. Ça coûte des buts quand tu le fais pas, aussi.
Ouais.
C'est Joel, quand que, si j'avais le club qu'il y avait à Chicago, tout le monde dans son prime, là, ça se peut que si on la bloque pas, on va scorer sur le prochain, mais c'est pas tous les clubs qui ont ce luxe-là là, d'avoir du lousse puis de dire, ah, ben regarde, si on la bloque pas, on va pas gagner pareil. Là. C'est pas, je te dirais qu'il y a peut-être 6, 7, 8 clubs dans la ligue qui peuvent avoir une philosophie comme ça. Les autres, on se bat pour les tirer. Là. Si okay. un lancer bloqué ou non peut faire la différence entre faire les tirer ou pas faire les tirer.
OK, si tu avais un club du premier tiers avec le talent qui fait que tu as un club du premier tiers, peut-être que tu gérerais différemment?
Aucune chance.
Non?
Mais je peux comprendre ce qu'il faut. Non.
OK. Toi, c'est pas négociable,
moi,
toi, André.
Ouais. Non. Moi, je suis pas négociable là-dessus. Mais il y a une façon. Moi, je pense que dans la vie, quand tu fais les bonnes choses, que ce soit sur glace, hors glace, dans la société, les bonnes choses arrivent aux gens. Il y a t'as des chances, t'as des choses que t'avais pas vu venir qui arrivent, puis la chance te sourit. Quand tu fais pas les bonnes choses, ben les bad luck. Et bad luck suit. Fait que, moi, c'est ma philosophie. Moi, je pense que je crois au karma. Puis si tu fais les bonnes choses, karma will be good with you.
OK, écoute, c'est quand tu dis je crois, c'est vraiment une croyance parce que je sais pas si c'est prouvé statistiquement la somme de. Tu sais, tes gars aussi, des fois, ils sortent du jeu en bloquant des lancers. Toi-même, un ancien grand gardien, André, des fois, tu te faisais peut-être voiler à vue puis ça t'empêchait de faire un arrêt, non?
Ouais, mais. Les... À cette heure, prendre un lancer de la pointe, c'est difficile.
C'est vrai.
Avant, là...
La garnotte est disparue.
Avant, prendre un lancer de la pointe, tu prends la rondelle et tu shootes au net. Là. C'était pas compliqué. Là. Raymond Bourque, regarde le nombre de lancers qu'il y avait par année.
Oui.
C'est Raymond Bourque joue aujourd'hui, il fait encore des points. Là, je suis pas en train de dire ça. Et il prendrait pas 300 lancers par année. Là. Il dit, ben quoi, là, c'est... Je sais pas comment il en prenait. Là. Peut-être qu'il en prenait 500 ou 200, je sais pas. Là, mais je me souviens d'avoir regardé cette stats-là et je me disais, oui, il en prenait de la chatte. Parce qu'aujourd'hui, mettre des pas au net, c'est pas si facile que ça. Là. Il y a du trafic, il y a des gars qui passent ça en avant du but, il y a un ailier qui essaie de bloquer ta chatte. C'est pas un automatisme. C'est pas parce que tu veux que tu vas la mettre au net à toutes les fois. Fait que faut que tu sois mobile, faut que tu sois capable de jouer des lignes de shot, faut que tu sois capable de bouger, faut que. Etc. etc. Fait que c'est pas si facile que ça. Donc ça compte aussi parce qu'il y a des gars qui veulent bloquer des shots. Fait que ça l'enlève de l'offensive. Là, quand nous autres, exemple, hier, à Dallas,
oui.
On avait de la misère à générer des shots au net de nos défenseurs avec des rebounds, des choses-là. Fait que là, quand tu génères juste de ce qu'on appelle download, ouais, c'est bien plus facile à jouer. Là. Pour l'adversaire, là, c'est beaucoup plus difficile pour nous autres de générer de l'attaque. Fait que, écoute, c'est les clubs qui bloquent des shots sont durs à jouer contre. Regarde Philadelphie, là.
Oui.
Ça, c'est dur à jouer contre.
C'est
dur à jouer contre. T'aurais jamais pensé qu'il serait dans la course au playoff. Une des raisons, c'est la façon qu'il bloque des shots et qu'il ferme le centre de glace.
Mais tu sais, t'as mis dans le bullseye complètement. C'est sûr et certain que quand t'as pas le talent, mettons, que l'élite. Ah, puis peut-être que l'élite aussi doit le faire pour finalement se distinguer d'une équipe qui est de pareil calibre. Puis finalement, à la fin de tout ça, même meilleur contre meilleur, c'est peut-être un type bloqué qui peut faire la différence entre un champion. Mais t'as vraiment pas le choix quand t'es dans le deuxième tiers ou dans le troisième, puis t'essaies de graffiner pour faire les séries. Faut que t'en fasses plus que les autres, là. Mais tu sais, tu parlais de. Vas-y, André, pardon.
À 3-1, là. Quand c'est 3-1, là, Clayton Keller se met pas dans la ligne de shot. Je te ferais pas à craindre que je fais une crise. Là, je comprends ça. Là. Mais quand la game est 1-1, là, où on est en première période, ça fait 5 minutes que la game a commencé, s'il se met pas dans la ligne de shot, ça va être dur de gagner la game.
Tu y fais-tu savoir ou tout le monde le sait? T'as pas besoin de dire un mot?
Ça dépend. Je laisse savoir, mais c'est pas une affaire de criage.
T'en fais pas un show de boucan avec ça, là.
C'est ça, je fais pas un show boucan avec ça. Là, je vais dire, hey, Carl, il va savoir quoi tout de suite. Là, on va le regarder, on va dire, hey, ou je vais lui montrer l'iPad, je vais lui donner l'iPad, ou on regarde ça, ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, pas besoin de poser. Tu sais, c'est des pros, ces gars-là, là, c'est pas des enfants, là. T'as pas besoin de crier après eux.
Il y a du
bon à crier, là, ça sent pas bien.
C'est un excellent point. Puis pas juste au hockey, André, je suis 100 000 à l'heure d'accord avec toi. Bon, écoute, t'as vu tout le monde dans l'Ouest, t'as vu tout le monde dans l'Est. On arrive dans le dernier droit de la saison régulière. T'affrontais Dallas hier, tu sais. Puis dans toutes les équipes de l'Ouest, je veux dire, c'est difficile de départager quelqu'un. Je sais que l'an passé, t'étais bien impressionné par les Kings, puis il n'y a pas de raison de l'être moins, là. Tu sais, les séries s'en viennent bientôt. Mais où est-ce que tu situes Dallas dans tout ça, là, l'équipe que tu viens d'affronter hier?
Honnêtement, Mario, dans l'Ouest, là,
c'est dur, hein?
Tu me dirais que Dallas, que Winnipeg, que Colorado, que Los Angeles, que Edmonton, que Vancouver, que Vegas sont en fleurs comme ça. Je dirais, oh, ça fait du sens. Je suis pas surpris. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens parce que si tu en as 7 sur les 8, que tu serais pas surpris, là, t'es supposé être surpris en quelque part, là. Mais c'est comme ça. Honnêtement, c'est vraiment 7 équipes. C'est Nashville qui sont en feu.
Ben oui.
Ça me surprendrait. Les autres, ça me surprendrait. Les autres, ils seraient en finale. Là, mais vraiment, là, ça va être chapeau. Les sept autres clubs, vraiment, là, c'est des vraiment bons clubs.
C'est quoi qui fait la différence entre ces clubs-là et les autres comme Nashville qui sont bons, mais que tu dis tout de suite que là, tu serais surpris? C'est les clubs que tu serais pas surpris, qu'est-ce qu'ils ont que le deux tiers de la Ligue n'a pas?
Ça va être la maturité, la force physique, leur structure. Les meilleurs joueurs sont vraiment... C'est un petit peu la différence pour moi. Winnipeg, le meilleur joueur, sont bons. Mais Edmonton, le meilleur joueur, sont très, très bons.
Mm-hmm.
Même chose, c'est Vegas, le meilleur joueur, là, sont... C'est Stone, mais... Eichel, puis Pietrangelo, là, c'est Theodore. C'est vraiment l'élite de la Ligue nationale. Là. C'est pas juste des bons joueurs, là, c'est l'élite de l'élite. Là, fait que, à un moment donné, c'était comme Los Angeles, très bon club, j'adore le club, mais le meilleur joueur sont aussi bons que les meilleurs joueurs du Colorado?
Non.
C'est l'Avalanche, le meilleur joueur. Là. C'est quelque chose. Là. C'est quand ils mettent les cinq ensemble.
Hey, je regardais le Edmonton Colorado l'autre soir, André, ça fly.
Ça n'a pas de sens. C'est ça. Là. Tu vois, la meilleure game que j'ai vue cette année, c'est Minnesota. La game qui s'est finie en overtime, que Minnesota a enlevé le goaler. Cette game-là, nous autres, on était à Chicago, je regardais ça avant. C'est une vraie game des séries. Là. Les autres, là, il fallait qu'ils gagnent. Nashville, il était dans une bonne séquence. Là, 10 en ligne, il gagnait. Là, dit, c'était une game de hockey. Il y avait de l'intensité, c'était physique. C'était robuste, il y avait des jeux, il y avait de la desperation. C'était tout beau à voir.
On entre dans cette zone-là là, qui nous offre le plus beau hockey avec les séries bientôt. Là. C'est tellement... Il n'y a pas grand sport qui accote l'intensité d'un match de hockey quand ça part. L'autre soir, j'ai vu une séquence même qui... Je pense que c'est quoi? 2 minutes 50, sans arrêt. C'était pas en overtime, là, c'était pas en prolongation. Là. C'était back and forth, d'un bout à l'autre. Puis le monde capotait dans le building, là.
Oh, on est dans le beau hockey, t'as 100% raison.
Juste un petit mot pour revenir sur qu'est-ce qui va faire la différence entre les exceptionnels d'un club et peut-être des très, très bons d'un autre. Je voulais te demander, t'es-tu aussi fort que ton maillot le plus faible? C'est-tu aussi là que ça peut se faire la différence?
Définitivement. Dallas, c'est vraiment ça. Dallas, là, le joueur numéro 1 au joueur numéro 20, là, tout, honnêtement, ils sont tous dans le même paquet. On dit Robertson est meilleur que Smith. Ben oui, je sais, là, mais je veux dire. Le quatrième ligne est fatigante, la physique est intense, joue en piqué, est agressif sous forecheck, ils vont net, sont durs à jouer. Les quatre lignes, c'est la même chose, ils ont vraiment six bons défenseurs. Avec, honnêtement, Dallas, c'est ça qui est leur force à eux autres. C'est la même affaire avec Winnipeg, tu parlais tantôt de Winnipeg. Winnipeg, ils sont structurés, ils sont pesants, ils sont durs à jouer, ils ont six bons défenseurs. Toutes les chiffres sont difficiles contre Winnipeg. C'est vraiment ça leur force.
Il n'y en a vraiment pas de facile. Seattle, votre prochain match. Une petite dernière, on voit une vidéo se promener que Céline Dion, qu'on voit de plus en plus publiquement, tu vas dire où c'est que tu s'en vas avec Céline à soir, lui, dans notre conversation de hockey, a présenté l'alignement partant des Bruins de Boston dans le vestiaire avec une personnalité ou avec un jeune qui a eu une maladie ou quoi que ce soit. Tu as déjà vécu un moment magique. C'est un moment important pour toi, la présentation du line-up dans le vestiaire avant un match?
Ça dépend. Il y a 82 games. Ils sont pas tous spéciales. Des fois, il y en a des spéciales. Moi, Tu sais que moi, j'aime la famille, je suis un gars de famille. Fait que tu sais, quand que c'est les pères ou les, cette année, c'est les frères et sœurs qui ont annoncé les alignements partant dans la chambre pour nous autres. C'est ça, je trouve ça spécial. Je trouve ça. Là.
Les vraies affaires.
On est passé le. C'est ça. C'est ton gars, je joue dans la Ligue nationale, tu présentes le starting line. Alors, pour moi, il me semble que c'est spécial. Ça crée un lien. Ça, je trouve ça vraiment.
Il n'y a aucun doute. André.
C'est pas du flash, c'est vrai.
Exactement, c'est pour ça que ça m'a inspiré les vraies affaires, la famille puis les vraies émotions, t'as raison, puis ça touche direct. André, merci beaucoup, bonne soirée, bonne chance demain contre le Kraken, à bientôt.
Merci Mario, bye-bye.
Merci André, bye-bye.
Les amateurs de sport, pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Et c'est un grand plaisir de retrouver la directrice générale de l'équipe de Montréal dans la LPHF, notre amie, notre collaboratrice aux amateurs de sport, Danielle Sauvageau. Bonsoir, Danielle.
Bonsoir Mario, bienvenue, un bon retour.
Ben, merci ma chère, merci beaucoup. Et puis, je voulais te faire rebondir sur le propos de Stéphane qui amène un regard différent sur la culture des tirs bloqués en soulignant que Joel Quenneville, avec qui a gagné les Coupes cette année, t'as pas un fan de ça. Je t'avoue que c'est pas une analyse que je déteste. Je sais qu'à un moment donné, il y a des tirs que probablement faut que tu bloques dans des matchs où t'es d'égal à égal, même si t'es pas un... Tu sais, des équipes qui ont tout le temps la rondelle sont moins dans une situation comme ça, mais quand t'arrives les meilleurs contre les meilleurs, j'imagine que des fois, il faut que tu le fasses. Toi, est-ce que es-tu d'accord avec le propos de Stéphane?
Ben en fait, moi, je préfère de parler, il y a un moment, il y a un bon moment, puis il y a des situations de match qui t'amènent à dire, là, tu mènes par un point, il reste 2-3 minutes, t'es dans, mettons, en fin de séquence, tu vas d'abord et avant tout te placer dans les lignes de tir. Ensuite, tu veux vraiment diriger l'adversaire vers l'extérieur. Fait que c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont moins portés à bloquer ou ils ont des statistiques qui sont moindres parce qu'ils sont plus habiles d'amener l'adversaire à l'extérieur des points de mise en jeu. Alors, les statistiques, il faut les analyser aussi dans le sens où ils ont peut-être moins de bloquer, mais ils se retrouvent dans des situations où ils ont peut-être moins à le faire parce que tu mènes par plusieurs buts ou tu ne dois pas protéger des buts d'avance. Alors, c'est sûr que tes meilleurs joueurs, si tu as 2-3 buts d'avance, tu vas leur donner un petit peu la ligne directrice de dire, ben mets-toi pas devant un tir tout près du défenseur parce que dans le fond, on veut pas que tu te blesses. Mais dans des situations où tu mènes par un point, je peux te dire que même un Crosby va se laisser tomber devant l'adversaire. Pourquoi? Parce que tu veux à tout prix, puis Crosby fait bien les choses aussi, c'est un des meilleurs à bloquer des tirs. Mais il y a une façon de le faire pour éviter des blessures parce que c'est vrai que ça amène beaucoup de blessures.
Bon, d'autre part, ça a fait la manchette là, aussitôt qu'on a pris connaissance du fait que le fameux rendez-vous qui s'est enfin concrétisé pendant mon absence justement du match qui aura lieu au Centre Bell, que tous les billets s'étaient écoulés rapidement. Même le marché de la revente entre dans la danse, qui est une confirmation qu'il y a de l'intérêt, même s'il y a un côté désagréable à ça. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la nature de la bête. Qu'est-ce que ça a provoqué comme effet dans la Ligue de constater que ben, Montréal s'en va vers le nouveau record et au sein de ton équipe qui affrontera Toronto?
Mais dans un premier temps, j'ai reçu des bravo, là, des thumbs up à travers des gens qui sont oui à la Ligue, mais aussi chez nos adversaires en disant c'est toujours le fun de venir jouer à Montréal. On dit souvent que c'est les meilleurs partisans sont à Montréal, mais c'est pas parce que c'est du hockey féminin ou masculin, c'est des partisans de hockey. Et maintenant, même notre Ligue le reconnaît. Plusieurs indicateurs nous amenaient à dire, oui, on pense que les billets vont se vendre très, très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on se disait, il y a des détenteurs de billets de saison. À l'Aréna de Verdun, tous les billets sont vendus. Les billets étaient aussi vendus pour le match du 21 avril, le match qui est maintenant au Centre Bell le 20 avril. Les gens de la Place Bell disaient, ben, nous, on veut y aller. Alors, mine de rien, si on prend 10, 12 000 personnes puis on amène un ami, bon, on est rendu à 22. Alors, on était très, très, très confiants. Maintenant, ce qu'on ne savait pas que c'était pour être vendu aussi rapidement. Mais c'est magique, c'est merveilleux. Les joueuses disaient hier, c'est malade. Imagine, on s'en va jouer au Centre Bell avec une popularité. Puis les billets se sont, comme tu l'as mentionné, envolés très rapidement. Alors, ça démontre tout l'engouement pour l'équipe de Montréal.
On n'a même pas eu besoin de partir de cabale, Daniel. Qu'est-ce que tu dis de ça? T'sais? Parce que ça, t'sais, ça répète le cas. Mettons qu'il restait une couple de mille à vendre. Ah ouais, let's go, on remplit la place. Mais non, même pas un mois à dire. Zip, c'était réglé. Ça, c'est vrai.
Ah, je pense que moi, toi et moi, on les achetait. Mais mine de rien, c'est même les joueuses. Hein? Les joueuses disaient, ben moi, ma famille va venir. Voici, il y a plusieurs joueuses qui restent en région. Je pense que Charlevoix, dans la région de Charlevoix, c'est fermé là, le 20 avril prochain. Là. Les gens, Anne-Renée Desbiens qui vient de cette région-là, la région de Drummondville, la Beauce, imaginez là, tous les gens du Québec qui se donnent rendez-vous là, pour venir encourager leur vedette locale.
Vous avez un gros défi devant vous. Puis c'est toujours un gros défi dans la Ligue. C'est très, très équilibré. Mais donc, Toronto est-il en train de devenir votre bête noire, l'adversaire de ce prochain match au Centre Bell?
La bête bleue, je vois. La bête bleue. Oui, c'est une équipe qui nous donne du fil à retordre. Le dernier match, la semaine passée, là, au compte 2-1, c'est probablement le meilleur match que nous avons joué là, contre Toronto. Quoique un match aussi là, à Verdun, ça s'est terminé là, justement en tir de barrage, tu te rappelles. La décision avait été de lancer là, Marie-Philippe quelques fois là, en tir de barrage. Alors oui, c'est des matchs qui sont vraiment des matchs physiques. Les joueuses se connaissent. Il y a plusieurs joueuses de l'équipe nationale qui en font partie. Je rappelle que dimanche dernier, Marie-Philippe Poulin n'était pas là. Donc, on était très, très contents de garder là, un score serré et même deux poteaux vers la fin. Alors, c'était quand même un bon match, mais définitivement que le match du 20 avril, je te confirme qu'on vise la victoire.
Et là, ben, veux pas le résultat de tout ça, c'est que vous avez légèrement glissé au classement, ce qui fait que là, c'est Toronto qui domine à 36 points, Minnesota à 33, Montréal est au milieu du peloton, ou tout près, là, quand même, dans le premier groupe toujours, dans le premier tiers, à 30 points. Quel est le défi peut-être que tu avais moins anticipé, que vous avez relevé comme équipe, comme directrice générale, Daniel, cette saison, dans la saison qui n'est pas terminée encore?
Les blessures. Nous avons trois joueuses présentement qui sont sur la liste des blessés là, à long terme. Trois joueuses que nous avons repêchées. Kennedy Marchman, Dominika Laskova et Anne-Sophie Pété. Alors, ce sont des joueuses là, qui faisaient partie de notre top 6, top 9 en termes d'attaquantes et top 4 en termes de défenseurs. Alors ça nous a pris là quelques séquences, quelques périodes de pouvoir réajuster l'alignement. Alors ça, c'est un défi. Je t'ai parlé tantôt de Marie-Philippe qui a pas joué là, les trois derniers matchs. On y va au jour le jour. Il y a aussi là, un championnat mondial pour elle là, dans quelques semaines. Alors ce sont des indicateurs qui des décisions qui sont dures à prendre parce qu'on veut préserver la santé de l'athlète à moyen et à long terme. Alors j'ai toujours dit qu'on était pour être patient. Et je suis prête là à garder plus souvent ces joueuses-là à la clinique que de les ramener rapidement. Mais à court terme, c'est un défi. Il reste encore 7 matchs, donc beaucoup de choses peuvent arriver. Alors, 3 points, c'est vite gagné. On est vraiment dans le peloton de tête. Mais ça demeure que ça, au cours des prochaines semaines, c'est le défi premier là, pour notre équipe.
As-tu une profondeur limitée, en ce sens qu'il y avait un nombre X de contrats, quelques joueurs sur l'équipe de réserve? Tu peux-tu aller creuser plus loin au besoin?
En fait, c'est une bonne question. On a dû, là, mardi, après la période d'échange disponible, là, la fin des périodes d'échange qui était lundi, 4 heures, nous avons effectivement là, signé... deux autres joueuses de réserve. Il y avait des joueuses qui n'étaient pas éligibles, mais devaient rentrer d'abord dans le draft en début de l'année. Mais cette semaine, Brooke Stacy, qui avait fait un bout du camp d'entraînement avec nous, que nous ramenons, et aussi Liane Perrault, qui a joué, qui n'avait pas trouvé un poste en début d'année, qui a joué son hiver, sa saison en Suède, et qui s'est terminée la semaine passée. Alors, on a cru bon de la ramener, qui est la fille de Yannick Perrault. Alors, c'est le fun qu'elle revienne à Montréal. Alors, ces deux joueuses vont se joindre à l'équipe la semaine prochaine.
Alors, deux Perreault qui sont de retour dans l'environnement montréalais. Jacob, un des fils de la famille et sa fille. Alors, c'est intéressant. On va voir la suite. Maintenant, je m'en voudrais pas t'amener à commenter également les succès assez impressionnants de l'équipe dirigée par Caroline Ouellet dans le hockey universitaire. Bon, je sais que tu as été impliqué pendant de nombreuses années dans le programme des Carabins. Caroline et son entourage font un boulot exceptionnel avec les Stingers qui ont rapporté un deuxième championnat canadien en trois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le succès du programme et de l'équipe dirigée par Caroline?
Caroline et Julie font un travail remarquable. Tu fais bien de le mentionner, deux années en trois. L'année dernière, le championnat canadien se déroulait ici à Montréal, là, au Sepsum, et puis il restait une seconde huit au match lorsque l'adversaire a compté et a gagné le match en période de prolongation. Alors, c'est un programme qui domine au cours là, des 3-4 dernières années, tout comme, d'une certaine façon, les Carabins qui... le programme a fini troisième après avoir perdu en tir de barrage contre l'équipe qui s'est rendue en finale, Toronto. Alors, deux équipes du Québec sur le podium. Ça démontre, Mario, comment le hockey est fort au Québec, le hockey universitaire. Il y a un beau travail qui s'est fait par l'ensemble des entraîneurs et des organisations pour tenter de garder nos joueuses, de premier plan au Québec et regarder maintenant la qualité des programmes. Alors, je continue à encourager justement l'ensemble des organisations à dire, restez ici, venez chez nous. Bishop qui a connu aussi une superbe année. Alors, notre hockey québécois est en santé, malgré que deux équipes là, qui vont quitter pour la conférence de l'Ontario. Alors, on pense que maintenant, on est peut-être prêt là, à avoir un autre programme universitaire au Québec.
Alors, peut-être un autre programme universitaire de hockey féminin. Peut-être une autre équipe de hockey dans la LPHF, éventuellement.
Mais oui.
Crois-tu que le bassin le permet en 30 secondes? On ne développe pas une autre fois tantôt, mais juste un petit son de cloche, Daniel. Crois-tu à une future expansion et au marché de Québec?
Oui, j'y crois. La Ligue est très au courant. Oui, j'y crois à l'expansion. On a dit que ce ne sera pas l'année prochaine, mais trop de joueuses vont se retrouver sans travail dès l'année prochaine. Alors oui, on doit avoir plus d'équipes en 2025.
Daniel, un gros merci. Je te dis à très bientôt. Bonne soirée.
Merci.
Bye bye. Merci. Bye. Au retour, il sera question de Shohei Ohtani, d'une histoire de pari. C'est pas lui qui a parié. Il a couvert les dettes de son ami interprète. C'est quoi l'histoire au juste? Mais c'est pas le genre d'histoire qui est souhaitable, mais je pense qu'il va y en avoir de plus en plus d'histoires semblables. On veut l'argent du pari, mais je pense qu'il y a des problèmes qui viennent avec ça de façon assez évidente. Philo, au retour.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
Le match le plus important de la saison des Islanders, selon Stéphane White tout à l'heure, après 40 minutes de jeu à Détroit, les Red Wings mènent 3-1 actuellement. 3 buts sur 16 lancés pour Sorokin, qui a de la difficulté récemment avec les Islanders. 2-1 les Rangers sur les Bruins. Je ne fais que mentionner là, les matchs où il y a un enjeu de série. Les Hurricanes mènent 2-1 sur les Flyers. Pour le reste, bon, on suit ça pendant la soirée. Avant match canadien, Vancouver, 21h30 ce soir. Philo est avec nous maintenant. Bien le bonsoir, Jérémy.
Salut Mario.
Je voulais te parler de Shohei Ohtani. Bon, les deux premiers matchs de la saison du baseball majeur se déroulent en Corée, mais c'est pas tant les résultats des matchs qui retiennent l'attention aujourd'hui, mais cette histoire où il y a des versions qui ont changé concernant un transfert de 4,5 millions de dollars à partir du compte de Shohei Ohtani vers un gestionnaire, ce qu'on appelle un bookmaker là, ou un gestionnaire de compte de Paris. C'est quoi l'histoire? Est-ce que ça sent mauvais ou qu'est-ce que tu en penses selon les données disponibles?
Ben, écoute, à prime abord, les Dodgers ont annoncé qu'ils congédiaient le traducteur de Shohei Ohtani, Ipei Mizuhara, parce que, selon leurs informations, il avait volé de l'argent à Shohei Ohtani. Et là, ben, l'histoire a quand même progressé depuis hier matin. Et là, ce qu'on a appris via l'entourage d'Ohtani, mais aussi du traducteur, c'est que c'est pas nécessairement ça. C'est que son traducteur avait un problème de jeu et Ohtani aurait transféré jusqu'à 4,5 millions de dollars de son propre compte de banque directement à ce preneur au livre là, en Californie. Il faut comprendre que c'était un preneur au livre là, qui faisait ça de façon illégale aussi. Alors tout de suite, les gens se sont posé la question, Ben, est-ce que c'est Ohtani lui-même qui misait? Est-ce que son traducteur couvre pour lui? Est-ce qu'on misait sur des matchs de baseball, encore plus important? Mais là, bon, selon ce que le traducteur a expliqué, c'est vraiment lui qui avait le problème de jeu, qu'Ohtani est son ami de longue date et qu'il avait accepté de couvrir ses dettes. On parle ici quand même là, d'un transfert d'argent qui a été fait à l'époque où Ohtani évoluait avec les Angels et non avec les Dodgers. La personne en question qui recevait les paris, lui aussi, est sorti publiquement en disant que non, il n'y avait pas de paris sur le baseball, que ce n'était pas des paris de Shohei Ohtani. Par contre, il a avoué qu'il s'était servi de son nom pour mousser un peu sa business en disant « ben écoute, moi, je prends les paris de Shohei Ohtani », alors qu'il savait très bien que ce n'était pas le cas. Mais ça, c'est la version qu'on a. Mais
il va y avoir enquête.
Des ordres majeures enquête, là, c'est certain.
Ben oui, parce que là, tu peux pas avoir de soupçons, tu peux pas compromettre, surtout que le baseball majeur a toujours été très, très pointueux. Là, on a juste à penser à l'histoire des Black Sox ou encore de Pete Rose, qui est toujours pas intronisé au Panthéon de la renommée. Puis là, ben, on a ouvert toutes grandes les valves aux paris sportifs et aux milliards de dollars qu'ils vont générer. Ben, il faut aussi se préparer un bouclier anti-corruption d'une certaine façon, là.
Ben, écoute, on l'a vu aussi dans la Ligue nationale de hockey avec Pinto, là, avec les Sénateurs d'Ottawa. Ce sont des choses qui vont arriver. C'est sûr que ça fait bizarre parce qu'on se dit comment un traducteur peut-il parier autant d'argent? Et sur le coup, originalement, on pensait que c'était lui qui avait accès directement au compte bancaire d'Ohtani. Alors on se dit, mais comment se fait-il que le traducteur d'un athlète ait accès à ses comptes de banque, ait ses mots de passe et tout ça? Donc, il va falloir démêler tout ça pour voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai dans cette histoire-là. Et là, ben, écoute, il en fallait pas plus que pour que les médias au Japon, et vous savez, là, il y a une cinquantaine de membres des médias entre les journalistes, les photographes, et tout ça, qui suivent Ohtani au quotidien, pour faire la une dans les journaux.
Les médias japonais. Oui.
Exactement. Et sa réputation d'homme, entre guillemets, parfait, en prend un petit peu pour son rhume présentement. Je veux dire, si ce qu'on entend au moment où on se parle, c'est la vérité, je peux pas dire que mon opinion de Shohei Ohtani diminue en tant que telle. Mais c'est sûr que tu veux jamais être mêlé à une histoire comme ça. Et ce matin, après le deuxième match de la saison entre les Dodgers et les Padres, les journalistes japonais qui étaient sur place en Corée ont voulu lui poser des questions et il a dit... Je ne parle pas de ce dossier-là et ça s'est terminé ainsi. Là.
Et c'est un gars qui communique très rarement, même si on lui prête les services d'un interprète, là, les points de presse. Est-ce qu'il y a souvent des commentaires de Shohei Ohtani après ses performances, Jérémy? Est-ce qu'il y a des règles du baseball majeur qui l'obligent à rencontrer des médias?
Écoute, je pourrais pas te dire exactement c'est quoi la régularité avec laquelle il rencontre les médias. Assurément, les journées où il lance, ça ferait du sens qu'il soit là pour répondre aux questions des journalistes. Mais comme tu viens de le mentionner, il y a un traducteur là qui normalement est supposé s'occuper de faire comprendre tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, mais je pourrais pas te dire exactement avec quelle régularité il rencontre les journalistes.
Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en tout cas, lui prêter 4,5 millions de dollars, c'est comme une poignée de 30 sous avec un contrat de 700 millions de dollars sur les 10 prochaines années seulement. Là. Puis il y en a déjà engrangé pas mal de millions avant même d'entrer ou que ce contrat-là entre en vigueur.
Ben, surtout maintenant, avec le contrat qu'il vient de signer avec les Dodgers. Par contre, il faut comprendre que je pense qu'il y a plus de 90% de cet argent-là qui va lui être payé à partir de l'année numéro 11, alors qu'il ne sera plus avec les Dodgers. Là, on dit que c'est une histoire d'impôts et qu'à ce moment-là, il retournerait au Japon et qu'il y aurait beaucoup moins d'impôts à payer à ce moment-là.
Oui, t'as raison.
Comme tu viens de le mentionner, quand t'es prêt à sortir ton ami du trouble en payant ses dettes de 4,5 millions et son interprète qui a dit aujourd'hui « J'ai appris ma leçon, je m'embarquerai plus dans des choses comme ça, puis je me sens mal d'avoir entaché la réputation de mon ami et d'un grand athlète. » C'est pas une histoire très reluisante.
Là. Non. Et au plan baseball, ben notons que les Padres et les Dodgers se sont partagés ce programme de deux matchs, victoire des Dodgers hier. Et aujourd'hui, les Padres l'ont emporté par le pointage de 15 à 11. La nouvelle sensation au monticule où Yamamoto n'a fait qu'une manche haut pour les Dodgers aujourd'hui. Merci beaucoup, Philo, et bonne soirée.
Pas de problème, bonne soirée.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.